enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, nous allons entamer ensemble, nous débutons ensemble une série de 3 ou 4 messages pendant le mois de mai qui devrait se terminer au début du mois de juin, intitulé « Le pardon des offenses ». Et je me souviens exactement dans quelles circonstances, où, quand et à quel moment Dieu a écrit, Dieu a imprimé cette série de messages sur mon cœur, à quel moment l'importance, après tant d'années, après plus de 20 ans, 25 ans dans le service pour Dieu, à quel moment Dieu m'a saisi avec la réalisation de l'importance du pardon des offenses. Toute une révélation, c'est comme si le Seigneur a ouvert toutes les Écritures concernant les offenses et concernant le pardon. Je me souviens exactement du moment. C'était pendant un temps de jeûne et de prière au début de l'année, de 40 jours de jeûne et prière. Pour la première fois de ma vie, j'avais senti cette direction du Seigneur et beaucoup d'entre vous, vous êtes joints pour des journées de prière avec nous. À tous les débuts d'année, on fait des jeûnes prolongés, mais c'était la première fois, 40 jours de jeûne et prière. Et c'était en réponse à une soif. Il y avait tellement une soif dans mon cœur. Je sentais ce besoin d'être mis à part avec Dieu. Et pendant ces 40 jours-là, ça a été un 40 jours où Dieu a fait des choses extraordinaires. Il y a un combat, ceux d'entre vous qui avaient expérimenté, lorsque nous jeûnons et prions à long terme pendant des semaines, il y a un combat physique, il y a un combat même qui est spirituel, mais au-delà, lorsque nous persévérons, il y a une bénédiction, un fruit qui est surnaturel. Et pendant ce mois-là, on a eu plein de réunions de prières, des rassemblements de prière ici à l'église, des jours de prière, des retraites de prière avec des pasteurs, avec des leaders de l'église, avec des croyants ici de l'église. Il y a différentes, toutes sortes de choses que Dieu a fait pendant ce mois. C'est pendant ce mois que Dieu m'a mis les pensées sur mon cœur, et à chaque jour, au lieu d'être en train de déjeuner, de dîner, de souper, les soirées, à chaque jour j'écrivais, et Dieu m'a donné le livre. C'est pendant ces jours-là, à la fin du jeûne, le livre était complété, le livre augmente notre foi. C'est du temps de jeûne et prière que le livre est né, et je suis toujours béni avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vraiment un livre simple, mais il semble que Dieu a voulu s'en servir de grande façon. À chaque semaine, 2 ans plus tard, on reçoit des témoignages, on est en 2e édition et le livre est partout dans la francophonie, et Dieu s'en sert pour toucher des vies. Cette semaine, j'ai laissé la feuille, vous savez, on a des piles de choses à faire, mais j'ai laissé la feuille sur mon bureau pendant quelques jours cette semaine, d'une dame, tout simplement, cette semaine, qui écrivait pour dire que sa mère, qui est âgée, qui était malade, québécoise typique, et dans son cas à elle, une enfant de Duplessis, une femme qui avait été abusée, qui avait une haine, une colère envers tout ce qui était religion chrétienne, et elle disait détester, en blasphémant, en sacrant, elle disait comment est-ce qu'elle haïssait les croix et les clochers et les églises. Et alors que les années passaient, cette femme a donné sa vie au Seigneur, mais sa mère n'a jamais une fois voulu mettre le pied dans aucune église. Et c'est avec sa permission que je vous dis ce témoignage ce matin. Et la femme priait pour sa maman et tout ça. Et lorsque le livre est sorti, la femme a été touchée et elle a offert le livre à sa mère en cadeau. Sa mère a toujours été une ennemie des églises. Elle lui a offert le livre. Et elle avait une assez bonne stratégie. Je sais pas c'était quel, c'était un anniversaire ou qu'est-ce que c'était, mais elle lui a offert avec du chocolat et des biscuits. Combien croient que n'importe quel livre passe avec du chocolat et des biscuits? Et le livre au milieu des biscuits et du chocolat. Et à la grande surprise de la fille, la maman l'a lu d'un trait. L'a lu de jour, l'a lu de soir, l'a lu de nuit. Et quelques jours plus tard, a appelé sa fille. Ils ont eu une conversation, elle était bouleversée, une conversation spirituelle comme ils n'avaient jamais eu. Et dans les jours qui ont suivi, elle a commencé, la dame, à venir à l'église. Et le dimanche matin de Pâques 2007, elle a donné sa vie au Seigneur. La maman et la fille étaient ici ensemble. Ils sont ici avec nous. Et on va applaudir la grâce de Dieu. Pendant ce temps de jeûne et prière, il y a beaucoup de choses qui ont pris place. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. En début d'année, il y a deux mots que Dieu, en 2005, C'était une année comme toutes les autres, et pourtant, Dieu a mis ces deux mots sur mon cœur. Je les partageais avec l'Église, le staff, les leaders de l'Église et tous les chefs de département, que Dieu imprimait pendant le jeûne les mots sans précédent. Que l'année 2005 était pour être une année sans précédent, une année avec des commencements sans précédent, avec des combats sans précédent, mais avec des constructions, des choses qui étaient pour être édifiées pour Dieu. Et je crois qu'à partir de ces moments-là, nous avons vu dans les mois qui ont suivi l'accomplissement de cette parole-là qui avait été donnée devant l'Église, qui était hors de notre contrôle, mais qu'on a vu la main de Dieu diriger toutes sortes de choses, la naissance de l'ITF qui a pris place. Et lorsque vous sortez du bâtiment ce matin, que vous regardez à votre droite, en sortant, que vous voyez ce merveilleux édifice qui est là, qui dit ITF, cet endroit-là, c'est pas seulement une bâtisse, c'est pas seulement des briques et du mortier, c'est l'accomplissement du rêve de Dieu. Et dans cet endroit, notre vision, et c'est déjà commencé, c'est que des centaines et milliers d'hommes et de femmes vont venir vers ce lieu à travers les nations francophones, vont être formés, vont être saisis d'une flamme et vont repartir comme des flammes de Dieu pour aller embraser la francophonie. Et ça, c'est né dans le jeûne et la prière. Je crois que ce que nous allons vous présenter ce mercredi soir, l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, est née pendant ce 40 jours de jeûne et de prière. Et pendant ce 40 jours-là, je me souviens exactement des jours, du moment, de l'endroit où j'étais, où pendant quelques jours, j'étais en prière et en intercession devant Dieu, et où il m'a donné cette révélation du pardon des offenses. Et c'était en réponse à une agonie, à des questions qui étaient sur mon cœur. Parce qu'alors que les années passent, il y avait sur mon cœur cette flamme, mais ce déchirement aussi, ce cri devant Dieu de dire, Seigneur, comment j'avais en intercession un fardeau pour des gens qui ont chuté, des gens qui s'étaient éloignés des choses de Dieu, des gens qui abandonnent leur appel, des gens dont les comportements et les attitudes me semblaient tellement loin de la pureté, de la simplicité du royaume de Dieu. J'avais des questions que je posais à Dieu. Je marchais en jeûnant et en priant, et en intercédant pour les gens, il y avait ce cri sur mon cœur. Je posais des questions à Dieu. Et je sais que plusieurs d'entre vous avaient posé ces questions-là aussi. Plusieurs chrétiens qui sont ici de longue date, et vous voyez à côté de vous des gens que vous connaissiez, des gens que vous connaissez, que vous aimez, tout à coup se détacher des choses du royaume de Dieu, tout à coup commencer à agir absolument, complètement contraire à tout ce qu'ils avaient cru et dit auparavant. Ces questions brûlaient sur mon cœur. Je me souviens les larmes sur les joues de marcher et de prier en disant, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a tant de chutes morales? Montre-moi comment enseigner ton peuple. Enseigne-moi comment enseigner aux gens à se défendre et à protéger la beauté de ce que tu leur as donné. Pourquoi tellement de gens qui abandonnent? Pourquoi cet aveuglement, des comportements insensés, des gens qui balancent tout et des gens qui détruisent tout sur le passage, et tout le monde ne voit excepté eux après qu'ils ont connu Dieu? Pourquoi des leaders chrétiens qui sont durs, qui sont froids, qui sont méchants même, et qui peuvent être loin de la passion et de la grâce de Dieu? C'était pas dans un esprit accusateur, c'était même pour me protéger ma propre âme, de dire, Seigneur, moi je veux être épargné. Mais je veux aussi, j'avais sur mon cœur les mots du psaume 51 qui dit, Seigneur, enseigne-moi, crée-moi un cœur pur, enseigne-moi, parce que moi je veux, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, afin qu'ils puissent revenir à toi. Comme les disciples il y a 2000 ans, au pied du Seigneur, à dire, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi pourquoi et montre-moi comment équiper les enfants de Dieu, avertir, enseigner les enfants de Dieu, afin que nous protégions, que nous chérissions et que nous gardions la flamme qui est en nous. Combien d'entre vous ici, vous êtes reconnaissants pour ce que vous avez eu avec Dieu, mais vous voulez bien terminer, vous voulez une vie entière consacrée pour Dieu? Et comme les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-moi, enseigne-nous, à ses pieds. Seigneur, enseigne-nous. Et les paroles de cette prière que Jésus nous a enseignées sont revenues avec une fraîche révélation sur mon cœur. Cette portion de ce qu'on appelle le Notre Père, de cet enseignement, de ce modèle de prière, où le Seigneur nous dit, voici comment vous devez vivre, voici une clé. C'est comme si tout doucement, la voix de Dieu me disait, voici une clé tellement importante et tellement négligée. Et voici comment vous devez vivre, voici ce qui doit animer votre cœur. Ce cœur qui dit, pardonne-moi nos offenses, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les mots, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, le pardon des offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ont été brûlés sur mon cœur par l'Esprit de Dieu. Pardonne-nous Seigneur, comme nous pardonnons. Voulez-vous dire avec moi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce lien, je n'avais peut-être jamais réalisé si pleinement auparavant, si profondément, ce lien entre le pardon des offenses et immédiatement après, ne permet pas que nous soyons emportés par la tentation. ne permet pas, Seigneur, délivre-nous du malin. Ce lien entre les offenses et l'attaque spirituelle de l'ennemi. Ce lien, j'aimerais vous dire que de toutes les tentations que nous allons, à laquelle nous allons faire face dans la vie, la tentation des offenses est une des plus dévastatrices. La tentation, de, lorsque nous sommes blessés, de demeurer offensés, de permettre à l'offense de faire son œuvre en nous, de mettre ses racines en nous. Et ce lien, mais et pas seulement dans le texte, Jésus, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, voici comment vous devriez prier, et ne nous conduis pas en tentation, ne permets pas qu'on soit mis en tentation, délivre-nous du malin. Mais même dans le chapitre de Luc 11, ces concepts qui sont ensemble, le contexte de cet enseignement, on a les promesses, le Seigneur Jésus qui enseigne sur toutes les promesses, en prière, vous allez avoir, voici toutes les promesses que vous avez. Voici toute la puissance du Saint-Esprit. Vous lirez Luc 11. Voici en même temps promesse, puissance du Saint-Esprit. Vous avez cet enseignement sur les offenses et vous avez tout de suite après un enseignement prolongé du Seigneur sur ce qui est démoniaque, sur le combat spirituel, sur l'action la plus démonisée des ténèbres. Comment est-ce que le monde démoniaque peut lier un être humain? Et tout de suite après, vous avez un miracle qui est refusé. Et il y a cet enseignement qui a besoin de pénétrer nos cœurs, que les offenses sont extrêmement importantes, que si nous les permettons de demeurer, si nous les permettons de vivre en nous, le ciel se ferme. Si nous les permettons de demeurer en nous, l'esprit est attristé. Si nous les permettons de demeurer en nous, il y a du miraculeux qui est perdu, qui est avorté, et il y a toute une action, une porte qui s'ouvre à l'ennemi. J'aimerais vous dire l'esprit très simple de cette série de messages. Par la grâce de Dieu, dans ces quelques messages, ensemble, nous allons exposer l'ennemi, nous allons dévoiler l'ennemi et nous allons reprendre l'héritage que Dieu a pour chacun d'entre nous. Par la grâce de Dieu, nous ne permettrons pas aux offenses de faire leur œuvre en nous. Que ceux qui le veulent avec moi disent amen. Nous allons voir ensemble les offenses, une clé d'une importance spirituelle insoupçonnée. On va regarder ensemble dans les prochains messages un message que je prépare en ce moment, que je vais appeler l'offense des frères et l'offense des pères. Lorsque nous sommes offensés par des gens qui sont des gens autour de nous, des contemporains, mais des gens qui, même adultes, portent l'offense des pères, ont été blessés et offensés dans leur enfance ou même dans des églises ou dans le monde, dans leur vie, par des gens qui ont été appelés à être des pères, à être protecteurs, à chérir, à les nourrir, à les bâtir, mais qui les ont offensés. Il y a des gens qui portent l'offense des pères et nous allons, par la grâce de Dieu, vous enseigner comment en être libérés. Lorsque nous sommes même, dans même un message que vous n'aurez pas entendu peut-être souvent, cette idée, on l'a, nous savons de quoi cela parle, mais on n'ose peut-être pas en parler. Je vais apporter un message intitulé « Lorsque nous sommes offensés par le Seigneur ». Lorsque Dieu fait des choses et on ne comprend pas ce qu'il fait, tout le monde a vécu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, je veux te servir, je te donne mon mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas une offense dans le sens d'opposer Dieu, mais c'est dans le sens de questionnement sans réponse. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a même une possibilité que dans ma relation avec Dieu, il y a cette ombre d'offense. Nous allons découvrir ensemble comment être délivré des offenses, comment les détecter et se protéger des offenses, comment refuser des offenses et briser leur emprise sur nos vies. Donc, c'est le pardon des offenses. Nous allons découvrir ensemble ce que le pardon n'est pas, les marques bibliques et surnaturelles du pardon chrétien, comment abattre et déraciner des forteresses et des racines d'amertume, et nous allons découvrir ensemble la puissance et les promesses du peuple du pardon. Jésus a dit littéralement à ses disciples, il dit à chacun d'entre nous ici ce matin, Jésus a dit à ses disciples, Luc 17, 1, « Il est impossible qu'il n'arrive pas d'être offensé. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions d'être offensé ou des occasions de chute. L'essence de la foi chrétienne, si vous saisissez ceci, ça va vous aider grandement, c'est que le trésor éternel de Dieu, le royaume de Dieu, les plans de Dieu, la volonté de Dieu, les promesses de Dieu, les richesses de Dieu, qui est un trésor parfait et éternel, est déposé, est véhiculé, est incarné, est vécu et porté par des gens qui, eux, sont entièrement imparfaits. La Bible dit, nous portons ces trésors précieux dans des vases de terre. Que des gens complètement imparfaits, faibles et faillibles, sont appelés à vivre en communauté ensemble, sont appelés à vivre le royaume de Dieu. Et Dieu, lui, est imparfait, mais les personnes... Dieu est parfait, mais les personnes imparfaites que nous sommes, c'est un contraste saisissant. La beauté du royaume de Dieu éternel. Toujours ce paradoxe, les gens disent, comment ça se fait que, si c'est des chrétiens, comment ça se fait qu'une chose comme ça peut arriver? Comment ça se fait que les gens peuvent se faire de la peine, se décevoir, se blesser? Nous vivons nous avons besoin de comprendre cette dualité. Le trésor du royaume de Dieu, il est éternel et parfait, mais il est porté dans les vases de terre que nous sommes. J'aimerais que vous disiez à la personne près de vous, bonjour, je me présente, vase de terre. Dites à la personne près de vous. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. C'est impossible que nous n'ayons pas des moments où on va être déçus, où nous allons être blessés. Dans toutes les relations humaines, il va y avoir des moments d'offense, des moments où j'ai été déçu, où je m'attendais à quelque chose, où il y a eu un malentendu, où j'ai été déçu, blessé, où j'ai été irrité, où j'ai été délaissé, où je crois qu'on m'a laissé tomber, où j'avais une attente qui n'a pas été rencontrée. Jésus a dit ces choses-là, c'est impossible qu'elles n'arrivent pas. Dans toutes les relations, dans un couple, dans un mariage, il va y avoir des offenses. Dans une famille, il est possible pour des parents d'être offensés par leurs enfants. Après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, c'est incroyable que mon enfant me traite comme ça. Des enfants qui sont déçus ou offensés par leurs parents. D'être offensés dans une église, d'être offensés dans un monde de leadership spirituel, d'être offensés à notre travail, d'être offensés par des membres de notre famille. La différence à ce niveau dans la vie entre les chrétiens et les non-chrétiens n'est pas que les chrétiens arrivent à un état, qui est une espèce de nirvana où il n'y a jamais aucune difficulté qui va arriver. Il va arriver des moments où nous avons des offenses. Mais la différence, c'est que l'enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui vit en lui, a une capacité divine que l'offense ne reste pas. Une capacité de se pardonner, de s'aimer, de se parler. Vous pouvez dire amen n'importe quand ça vous tente. De relâcher la faute, de déchirer, de repartir à neuf, de refaire confiance, même si personne trouve ça bon. Continuez à prêcher là-dessus encore quelques minutes. Je vous parle d'un peuple de Dieu qui a un esprit différent de pardon et de grâce et la capacité que l'offense ne restera pas en moi. Par la grâce de Dieu, je peux la traverser, la transcender dans le pardon. Quelqu'un devrait dire amen. Alors nous allons réaliser ensemble que refuser de pardonner, garder l'offense, la permettre de vivre en nous. Je réfléchissais à ça, c'est pratiquement une espèce d'anorexie spirituelle. Mon épouse et plusieurs femmes, Stéphanie, mon épouse Chantal et plusieurs des femmes de l'Église vont régulièrement visiter les hôpitaux pour enfants comme Sainte-Justine. Et c'est très, très touchant et émouvant de voir des enfants qui ont le cancer, la leucémie et d'autres maladies graves et que leur vie est en danger. Mais sans doute, sans aucun doute, le plus bouleversant, c'est de voir des jeunes filles, la majorité sont des jeunes filles, et elles y vont plusieurs fois par année et revoient les mêmes jeunes filles qui sont en train de mourir, de se laisser mourir, qui n'ont aucune maladie de cancer ou de leucémie, mais qui sont boulimiques ou qui sont anorexiques, qui sont littéralement en train de se laisser mourir en refusant de la nourriture. Est-ce que vous me suivez? C'est assez bouleversant parce que la personne se fait mourir elle-même. Je méditais là-dessus, la tragédie écrite de cette façon. La tragédie de l'anorexie est qu'une personne devient convaincue que la nourriture, la chose que Dieu a pourvue pour la santé, est quelque chose de dangereux qui doit être refusé par elle à tout prix. Alors même que son corps se dessèche et se meurt, cette personne s'accroche à la notion que la nourriture est mauvaise pour elle. C'est un mensonge qui la tue lentement. Et alors que je méditais là-dessus, je crois qu'il y a énormément de chrétiens qui sont dans cette situation. Que c'est le pardon qui les délivrerait. Ils ont peur, ils se gardent loin de ce que Dieu a préparé pour les nourrir, pour les garder vivants, pour les fortifier. Dieu nous a pourvus par son esprit une capacité divine de pardonner, d'aimer, de relâcher, de rebâtir, de continuer, de se parler, de se dire la vérité avec amour. Et il y a toutes sortes de chrétiens par blessure, par ignorance, par captivité, qui littéralement s'empêchent, se gardent loin de ce que Dieu a prévu pour leur bien. Et petit à petit, leur vie spirituellement, petit à petit dans la rancune, dans l'amertume, ils deviennent des anorexiques spirituels. Et le but de cette série de messages, c'est de vous équiper et qu'ensemble, nous puissions nous nourrir de ce qui va nous libérer de grâce et de pardon et de compréhension. Et l'offense ne demeurera pas en nous. Et l'offense ne fera pas son œuvre d'avortement spirituel en nous. Et nous allons regarder ce matin un message d'introduction à la compréhension, les conséquences et le combat des offenses. Lorsqu'on parle du mot offense dans le Nouveau Testament, scandalon dans le grec, à l'origine, ce mot se référait à la partie du piège à laquelle l'appât était attaché. Aussi, le mot signifie poser un piège sur la route de quelqu'un. C'est littéralement la notion de piège dans les Écritures, de quelque chose que je ne réalisais pas la gravité. Je ne l'ai pas vu venir, il était couvert. Il y avait un appât, et en arrière, il y a le piège de l'oiseleur, comme dans le psaume 91. C'est la position chrétienne aussi, l'expérience chrétienne où je ne réalise pas le piège qu'il y a dans l'offense. Où je ne réalise pas ce que ça peut me faire. Où je pense que je peux m'en débarrasser n'importe quand, mais le piège est maintenant mis ses crocs en moi. Il y a une captivité qui est en moi que je ne réalise pas. Il y a un piège dans l'offense dont la profondeur, la compréhension a échappé à plusieurs. Nous avons besoin de voir la compréhension et les conséquences de l'offense, de réaliser que l'offense nous enchaîne littéralement, que de rester offensé nous attache. Le proverbe 18-19 nous dit « Un frère offensé est pire qu'une ville forte. » Et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. Les querelles sont comme les verrous, comme les barrures, les verrous d'une prison. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et un frère offensé est pire qu'une ville forte. L'expression « ville forte » ne veut pas dire grand-chose si vous ne connaissez pas le contexte. Mais dans un contexte de guerre dans l'Ancien Testament, par exemple, vous aviez cette notion que dans le passé, j'ai été attaqué. L'ennemi est venu et il nous a fait du mal. Alors nous bâtissons, nous fortifions notre ville. On montait des murs autour de la ville. Puis il y avait les murs, on appelait ça les villes fortifiées. On échafaudait, on montait des murs, pierre par pierre, pour se protéger. Et là, c'est nous qui contrôlons. Et les murs, à partir de ce moment-là, c'est moi qui décide qui entre et qui sort. C'est moi qui décide qui va avoir accès à moi. C'est moi qui décide. Et ceux qui avaient des dettes ou ceux que je me méfie, ou ceux, c'est seulement moi qui laisse entrer ce que je veux. Une personne offensée est comme une ville forte. Une personne offensée monte des barricades et elle monte des murs et elle commence à vivre en fonction de qui je vais permettre de venir près de moi, qui je vais écouter, avec qui je vais être en relation ou non. Et la plupart du temps, le problème de la personne offensée, c'est pour ça que le texte dit que l'offense nous enchaîne, c'est que non seulement l'offense, un frère, une sœur qui est offensé comme une ville forte, mais ils deviennent littéralement comme les verrous d'un donjon. C'est que littéralement, tu deviens prisonnier derrière tes murs. Et la plupart du temps, les seules personnes, quelqu'un qui est offensé, la plupart du temps, les seules personnes qui permettent d'entrer près d'eux, c'est d'autres personnes offensées, qui nourrissent leur offense l'un l'autre. Et avec chaque pierre, il y a un mur qui est là. Je suis enchaîné, je m'attache. L'offense me lie. J'aimerais vous dire, je demande au Seigneur, et il m'a aidé ce matin, demande au Seigneur de me garder émotivement pendant que j'apporte ceci, parce que je pourrais m'asseoir ici. Je pourrais m'asseoir ici puis commencer, là. Puis plusieurs fois dans le lieu de la prière, ça m'est arrivé. Juste de sangloter. Lorsque je pense à des églises, à des mouvements d'églises, à des associations entières, à des larges portions du corps de Christ qui sont enchaînées, qui sont captifs, il n'y a plus rien qui peut se passer parce qu'ils sont derrière leur mur. Ils ont été offensés et l'offense a mis ses racines en eux. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous êtes avec moi, mais les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles par la vertu de Dieu, pas pour ériger des forteresses, pour abattre des forteresses, pour abattre des murs, afin que l'offense ne fasse pas son œuvre en nous. L'offense nous enchaîne. Et comprenez que les personnes qui nous offensent sont rarement des personnes étrangères loin de nous. C'est des personnes qu'on aime qui nous offensent. C'est des personnes qui ont de l'importance pour nous qui nous offensent et qui nous blessent. C'est ça le paradoxe que parfois, les gens, les personnes qui sont les plus virulentes, les plus méchantes envers d'autres, c'est envers des personnes qu'ils ont beaucoup aimées. En qui ils avaient eu beaucoup confiance, en qui ils s'attendaient à beaucoup. Et la maturité chrétienne, c'est cette réalisation aussi. Et ce n'est pas une excuse pour vivre de n'importe comment et d'être dur et indifférent aux gens. Moi, je vis ma vie à chaque jour en disant, Seigneur, je ne veux pas blesser personne, je ne veux pas décevoir personne, je ne veux pas être une offense pour personne. Mais il y a, dans l'immaturité de beaucoup de chrétiens, des attentes qui sont irréalistes. Il y a des yeux qui sont sur les gens, et une fois que la personne me déçoit, c'est fini, et on monte le mur, et j'avais tellement confiance en toi, puis toi, j'aimerais vous dire ceci, chacun d'entre nous devons nous engager à ne jamais offenser, mais chacun d'entre nous qui nous engageons et dépendons de Dieu pour ne jamais offenser, pouvons être sûrs que nous allons offenser. Que nous allons décevoir. Nous sommes des gens imparfaits. Et parce que quelqu'un nous déçoit, ça ne devrait jamais, jamais secouer, changer ou mettre en question ma relation avec celui qui est parfait, avec celui qui ne me déçoit jamais et celui qui me donne la force de pardonner à mon frère ou à ma sœur qui est imparfait. Quelqu'un devrait dire amen. La parole de Dieu, nous, David a exprimé ceci. Il a dit... C'est pas quelqu'un qui était loin. Si ça avait été quelqu'un qui était loin, j'aurais pu le tolérer. David le dit de cette façon, psaume 55. Ce n'est pas un ennemi qui m'a fait du mal. Ça, je l'aurais supporté. Ce n'est pas celui qui m'a haï, qui m'a blessé. Je m'en irais, je m'éloignerais, je me sauverais de lui. Non, non, c'est toi. C'est toi qui es comme un frère pour moi. Tu étais mon confident. J'étais proche de toi. Ensemble, nous vivions une belle communion. Nous étions proches. Nous vivions une douce proximité. Nous allions avec enthousiasme à la maison de Dieu ensemble. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose de facile, puis je ne suis pas en train de vous dire que les offenses ne sont pas réelles. Nous aurons tous, si nous avons tous vécu, d'avoir eu confiance en quelqu'un, d'avoir eu une affection, une proximité avec quelqu'un qui nous blesse ou qui nous déçoit. Mais la marche avec Dieu et la marche de celui qui veut tout ce que Dieu a pour lui ou pour elle, c'est de dire, je ne permettrai pas à cette offense-là de faire son œuvre en moi par la grâce de Dieu. L'offense, je ne la permettrai pas de m'éloigner. Je ne la permettrai pas de m'endurcir. Car une des pires œuvres de l'offense, des conséquences de quelqu'un qui demeure offensé, qui se permet, qui garde l'offense et qui la couvre en lui-même, c'est que l'offense nous endurcit. Hébreux dit, prenez donc garde que personne parmi vous ne laisse la méchanceté et l'incrédulité entrer dans votre cœur. Avertissez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Quelle expression! Quand il reste une minute à la journée, du matin jusqu'au soir, avertis le peuple, c'est ce que je fais ce matin. Avertis-les de ne pas permettre de l'incrédulité, de la méchanceté d'être dans leur cœur, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est une chose hallucinante parce que, écoutez bien, des personnes sensibles, dans leur sensibilité, vont être offensés, et s'ils permettent à l'offense de demeurer, les personnes les plus sensibles deviennent d'une dureté implacable. Parce que l'offense endurcit, nous rend insensibles. Personne qui est offensée devient insensible, elle devient insensible à la présence de Dieu. Il y a des gens partout autour qui sont en train de louer Dieu, qui savent que Dieu est là et qui expérimentent Dieu. Et elle est là, froide comme une pierre et une insensibilité, insensible à la parole de Dieu, plus rien qui vient me toucher, insensible au peuple de Dieu, insensible au mal qu'ils font autour d'eux, insensible à l'exemple qu'ils donnent à leurs propres enfants, au message qu'ils donnent à leurs enfants, que ce soit physique ou leurs enfants spirituels. De gens blessés, amers et offensés qui répandent un esprit d'offense et d'amant. Par la grâce de Dieu, j'aimerais être un homme et j'aimerais que vous disiez avec moi, je veux être un homme, je veux être une femme qui répand la grâce, qui répand le pardon, qui devient un modèle de pardon lorsqu'il est offensé. Quelqu'un devrait dire oui. L'offense nous rend insensibles même aux bontés de Dieu. Une personne offensée ne voit plus toutes les bonnes choses que Dieu lui a données. Ne voit plus les bonnes choses qu'elle a, la grandeur de Dieu, les bontés de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Mon témoignage, c'est comme si tout s'efface, excepté l'offense. Il n'y a plus rien qui compte, excepté l'offense. Son cœur devient endurci. L'offense endurcit. L'offense ouvre une porte à l'ennemi. Le Seigneur Jésus nous donne cette séquence qui prend place. C'est très, très spirituel. C'est très, très... Ça ouvre la porte à des choses profondément spirituelles en nous. Jésus a dit, voici, ce sera pour plusieurs une occasion de chute, Matthieu 24, 10. Occasion de chute, un sujet d'offense. Et alors, ils trahiront, ils haïront, ils seront séduits. L'iniquité progressera et l'amour se refroidira. Suivez bien cette progression, parce qu'elle guette chaque personne qui permet à l'offense de demeurer. Une personne offensée de Jésus va en venir à trahir, va en venir à haïr, va en venir à être séduite. Le mal progresse en elle et elle se refroidit. Elle en vient à trahir ses engagements devant Dieu, ses principes devant Dieu, ses convictions, à trahir son appel, à trahir tout ce qui est les choses les plus profondes qu'elle avait crues, parce qu'il y a une offense qui est là. Et il y a une trahison qui devient une haine et un refroidissement. Et là, elle est en danger parce que là, elle peut être séduite. Là, elle peut être séduite des choses. On lui a dit qu'il éloigne de Dieu et elle est prête à croire n'importe quoi. Elle met tout en question. Le mal progresse en elle et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu s'éteint dans cette personne. L'apôtre Jacques, si on regarde la diapo 20, l'apôtre Jacques dit, cette attitude-là ne vient pas d'en haut, mais elle est humaine. Je vous lis Jacques chapitre 3, mais le verset 13 à 18, la diapo 20. Le verset 15 dit, cette attitude-là ne vient pas d'en haut, mais elle est humaine, charnelle, et diabolique. Remarquez la progression. Les êtres humains normaux, c'est humain d'avoir une offense, ça va arriver. Mais si tu ne m'amènes pas cette offense-là devant Dieu, si tu ne l'amènes pas sous l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu et la recherche du Seigneur pour que tu en sois libéré, ce qui est humain devient charnel. Et la chair, tout ce qui est mal, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est contre l'Esprit de Dieu s'en empare. Et si tu ne l'amènes pas devant le Seigneur, ce qui n'était que humain et qui est devenu charnel devient carrément diabolique. Ouvre la porte à l'ennemi de ton âme, au menteur qui bombarde tes pensées et ton cœur et te rend capable de faire et de dire des choses les plus terribles. L'offense nous éloigne et nous met à l'écart. Proverbe 18:1, celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Il n'écoute que ses propres sentiments. Il se déchaîne contre toute raison. Il rejette toute assistance. La personne qui est offensée, si elle ne vient pas devant le Seigneur, il vient un moment où tout ce qu'elle veut, c'est s'isoler, puis elle veut pas entendre, tu peux même pas l'aider. Elle est dans une tour, elle est dans un donjon d'isolement. L'offense nous éloigne, nous endurcit, nous enchaîne. L'offense éteint notre discernement et nous rend aveugles. Et c'est la conséquence de l'offense. Mais par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, je vous appelle à un combat ce matin. On commence cette série, si vous voulez bien, on va se rouler les manches ensemble. Il faut que vous le discerniez avec moi, parce qu'il y a des séries que lorsqu'on l'annonce, c'est quelque chose qui peut être excitant. Série sur la plénitude de l'esprit, série sur la guérison, série sur le rêve de Dieu. Ça va être excitant. J'aimerais vous dire que cette série de quelques semaines seulement sur le pardon qui va se faire pendant tout le mois de mai peut sembler quelque chose, à prime abord, le pardon et les offenses, quelque chose là que nous ne sommes pas habitués. Mais mon cœur bat la chamade spirituellement parce que je sais que de l'autre côté du pardon et de l'autre côté de cet enseignement, le ciel va s'ouvrir. Les bénédictions de Dieu. C'est ça que ce combat-là, il en vaut la peine parce qu'il va relâcher toute la gloire de la bénédiction de Dieu. Il y a des vies qui vont être changées. Je déclare prophétiquement que des vies vont être changées, que des mariages vont être changés, que des familles vont être changées et qu'un peuple de Dieu va être changé, que votre appel va être sauvé ou restauré lorsque l'offense est brisée, son emprise est enlevée et la grâce et le pardon remplissent votre cœur. Le combat. Arrive à la fin du message, j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Le combat contre l'offense. 2 Timothée 2. Recherche l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse la discussion folle, sachant qu'elles font naître des conflits. Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire être doux, respectueux, avec de l'affection envers tous. Il doit enseigner, il doit redresser avec douceur les contradicteurs. Dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, revenir à leur bon sens, se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Jésus a enseigné, il a dit, voici comment vous devez prier. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Que ta volonté soit faite, ne nous permet pas d'être emporté par la tentation. Alors, permets-nous de pardonner lorsque nous avons été offensés. Dans le texte, il y a ces deux destinées. La volonté de Dieu dans le pardon et la volonté de l'ennemi lui-même qui veut voler, tuer, égorger et détruire. J'ai un rêve et une vision ce matin avec laquelle je veux terminer. Je vais vous demander de rêver avec moi pendant quelques instants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une chimère, c'est un rêve qui, par la grâce de Dieu, peut se réaliser dans votre vie et dans la mienne. Une personne à la fois, une église à la fois. Je rêve d'un peuple chrétien différent. Je rêve de chrétiens que lorsqu'ils sont blessés, peuvent se parler, peuvent communiquer, ne cachent pas pendant des années en laissant l'amertume dévorer leur cœur et éteindre leur vie spirituelle. Je rêve de chrétiens qui sont capables de se parler. Je rêve de chrétiens qui marchent avec douceur. Je rêve de chrétiens qui sont capables de se pardonner et de se dire la vérité avec amour. Je suis un peu décontenancé, je m'attendais à un amen pendant cette séquence. Je rêve d'églises différentes. Je rêve de leadership chrétien différent, où des hommes et des femmes matures peuvent se parler. Et lorsqu'il y a une déception, nous pouvons nous pardonner et nous brisons les liens de l'offense et nous déchirons la dette que la personne avait envers nous. Nous disons oui, et ce n'est pas l'ultime, le plus important n'est pas qui a eu raison et qui va gagner, qui m'a fait quoi. Le plus important, c'est que je déchire la dette et je dis, Seigneur, l'offense, je refuse que cette offense vienne me lier. Par la grâce de Dieu, je veux marcher dans le flot de l'Esprit. Quelqu'un devrait dire amen. Alléluia. Je veux dire aux étudiants de collège biblique, permettez-moi de m'adresser à eux quelques instants avant la graduation de cet après-midi. Je veux dire à tous ces serviteurs de Dieu qui vont avoir plusieurs combats dans leur vie. Dans le ministère, nous sommes appelés à combattre le bon combat. Il va y avoir le combat contre le péché, le combat contre le découragement, combat contre des sociétés entières dont la philosophie est anti-Christ, combat contre la méchanceté, la persécution, certains d'entre vous qui retournez dans des pays de persécution, combat contre l'injustice et la pauvreté, combat contre le manque de moyens, combat parfois contre toutes sortes de forces qui viennent contre vous, mais sans aucun doute, le combat le plus important, le plus significatif et le plus déterminant pour votre avenir va être le combat contre les offenses. Est-ce que vous allez devenir quelqu'un dans l'œuvre de Dieu qui va se permettre l'offense, nourrir l'offense, s'enliser dans l'offense, s'emprisonner dans l'offense, voir sa louange, son zeste, son zèle, sa joie, sa foi s'éteindre et s'amenuiser? Parce que l'offense dévore tout et vole tout et avorte tout. Ou est-ce que vous allez être quelqu'un qui va dire, par la grâce de Dieu, dans la vingtaine et la trentaine et la quarantaine et la cinquantaine et jusqu'à ce que j'aie un souffle, 70, 80 ans, chaque jour de ma vie, je refuse de laisser l'offense faire son œuvre. Je vais me repentir des offenses, je vais les remettre à Dieu, je vais rechercher l'Esprit de Dieu et Dieu va faire une œuvre. Je vais être, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui ne laissera jamais l'offense lui voler son appel et sa vie et son ministère et sa destinée et sa famille et ses enfants et son témoignage. Alors, pendant que Dan se prépare à nous conduire dans un moment, on va aller dans la prière ensemble dans un instant. Il y a quelques semaines, nous avons présenté une vidéo qui était très touchante, une vidéo qui nous avons été bénis d'avoir de pouvoir visionner ici, qui a été préparée par toute l'équipe de l'Église de New York avec David Wilkerson, et c'est une vidéo pour son 75e anniversaire. Il a commencé le ministère à l'âge de 16 ans, il a maintenant 75 ans, puis c'est... ceux d'entre vous qui étaient là, on a regardé cette vidéo-là ensemble. Et à la fin du vidéo, il y a différentes personnes qui donnent des témoignages sur lui, qui disent un mot sur sa vie, sur son ministère. Puis une des choses qui m'a vraiment touché lorsque j'ai vu la vidéo, c'est que j'ai vu le frère physique, le frère de sang de David Wilkerson, Don, qui a donné un témoignage et qui a dit, mon frère est un homme de Dieu, c'est mon frère, j'ai de l'admiration pour lui, il est un témoignage et je suis son exemple et je suis inspiré par sa vie. Lorsque j'ai regardé cette vidéo-là avec vous, j'étais extrêmement touché. Parce que je me souviens, il y a quelques années, d'avoir vu, si je ne vous dévoile pas quelque chose qui est privé, ces deux hommes-là, David et Don, se sont tenus ensemble devant l'Église et le peuple de Dieu à différents moments. Mais je me souviens d'une fois, ils se sont tenus ensemble, se tenant par la main, en donnant ce témoignage, que pendant toute une vie à servir le Seigneur, les deux, dans différentes sphères du ministère, alors que David Wilkerson avait 61 ans et son frère, juste quelques années de distance avec lui, quelles que soient les raisons, il y a plusieurs années, les deux ont vécu une division terrible. Un conflit, une déception, une blessure, une querelle majeure entre les deux hommes. Deux frères, imaginez-vous les familles, les enfants, les petits-enfants. Et ces deux hommes ont connu un déchirement terrible, au point qu'ils se sont séparés pendant un temps. Et c'est devenu un sujet de grande douleur. Et David Wilkerson, qui a combattu des combats dans toute sa vie, qui a combattu la maladie, son épouse qui a vécu des cancers et toutes sortes de... s'est battu contre des démons partout dans le monde et battu contre tout ce qui est ténébreux partout dans le monde, a pourtant dit que sans aucun doute ou aucune équivoque, le 2 ans le plus difficile et le combat et la plus grande période de douleur de sa vie était cette période de 2 ans où il était en conflit avec son frère, où l'offense était dans sa vie et où l'offense était dans la vie de l'autre et où il y avait tout ce déchirement. Il avait 61 ans à ce moment-là, puis je vais être direct avec vous. Il aurait pu faire comme beaucoup d'autres. Il aurait pu simplement rester dans cette offense et continuer à prêcher, continuer à faire l'œuvre de Dieu. Mais l'offense est là et pour le reste de sa vie, dire, c'est moi qui avais raison. Puis c'est terrible ce qu'il a fait après ce que j'ai fait pour lui. Puis après, c'est terrible. Puis ajouter du monde à son camp et bâtir ses arguments et en gagner le plus. Il y a quelque chose qui a poussé ces hommes de Dieu à venir l'un vers l'autre. Et lorsqu'il raconte le témoignage, c'est très touchant. Parce que les deux disent, ce n'était pas, le plus important n'était plus qui a dit qui aurait dû faire quoi. Non. Le plus important, c'était de se pardonner. Et le plus important, c'était d'être un modèle et de donner un message au corps de Christ et à tous nos fils et nos filles spirituelles. Que des hommes imparfaits vont parfois avoir des moments où ils se déçoivent et se blessent et s'offensent. Mais la différence, c'est que l'offense n'a pas besoin de demeurer et n'a pas besoin de nous paralyser pour le reste de nos vies. Nous pouvons nous pardonner. Nous pouvons nous aimer et nous pouvons continuer et bâtir et nous faire confiance et œuvrer pour le Seigneur ensemble et donner un modèle à ce monde de pardon et de grâce. C'est ce à quoi je vous appelle ce matin. J'aimerais demander à tout le monde, je vous remercie de la patience à ce message. J'aimerais vous demander de vous lever avec moi dans la présence de Dieu. Des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes, des femmes, des mamans, des papas, grands-parents, serviteurs de Dieu, pasteurs, leaders. Je vais vous mettre toutes les notes de côté pendant quelques instants et simplement la tête penchée dans la présence de Dieu. J'aimerais faire un appel, si vous voulez bien. Alors que nous débutons cette série de messages, nous disons ensemble, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. Je te prie maintenant que comme des langues de feu puissent se poser sur chaque personne ici, la puissance de ton Saint-Esprit, l'action divine de l'Esprit de Dieu. Viens maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, et viens déraciner, viens briser la force, la puissance de l'offense dans nos vies. Au nom de Jésus, nous en avons. Nous en comprenons l'importance, nous en voyons les conséquences et nous entrons dans le combat où tu vas nous accorder repentance, où nous allons nous dégager des pièges de l'ennemi. Nous ne serons pas soumis à la volonté de celui qui veut notre destruction, qui veut voler notre témoignage et nos vies, notre avenir et notre joie et notre paix et notre rire et notre confiance dans l'avenir, notre foi et notre don de nous-mêmes. Sa volonté pour nous est de nous avilir, nous détruire, nous diminuer, nous capturer et avorter ton appel sur nos vies. Mais nous ne permettrons pas à l'offense de nous placer sous sa volonté. Nous allons nous placer sous la volonté de Dieu qui a dit, pardonnez les offenses afin de ne pas être emporté par la tentation, afin d'être délivré du malin. Seigneur, maintenant nous venons devant toi. J'aimerais demander ce matin, si vous êtes ici, je ne ferai pas d'appel à l'avant. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, Pasteur Claude, je veux m'engager avec toi dans ce combat. Je veux remettre mes offenses devant Dieu. J'aimerais vous demander là où vous êtes de simplement lever votre main et de dire, me voici Seigneur, je remets mes offenses devant toi. Pendant quelques instants, Seigneur Jésus, je te prie pour tout ton peuple. Ceux qui sont ici, qui ont l'offense, va aussi loin que leurs premiers souvenirs dans leur enfance. Offensés, blessés, déçus et mal aimés et avilis alors qu'ils étaient tout jeunes. D'autres, Seigneur, dont l'offense a été dans les liens les plus personnels, dans les choses les plus intimes, dans leur relation conjugale, dans leur mariage. Offense qui a conduit à un divorce ou à une séparation. Offense dans le ministère ou dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Nous déclarons devant toi être incapables de nous libérer nous-mêmes des liens de l'offense. Mais celui qui est en nous est plus grand. Et ton esprit est vivant et puissant. Et nous venons devant toi et nous nous repentons. Nous reconnaissons la puissance de l'offense, mais nous disons aussi, le péché est péché. Le péché qui a été rattaché à l'offense, comment nous y avons réagi, comment nous avons parlé, comment nous avons agi, comment nous nous sommes comportés, nous l'apportons devant toi. Nous t'apportons nos offenses. Nous te demandons de nous libérer et de nous laver et de déraciner. Pendant quelques instants, prenez l'offense, la personne qui a offensé, les événements, les situations, ce qui a pris place, le moment, le temps, l'année, les individus, les choses qui brûlent, qui étaient comme un lien sur votre cœur, et amenez l'offense devant Dieu.
Puis pendant quelques minutes, j'aimerais aussi ouvrir vos bouches et commencer à dire, Seigneur, je pardonne les offenses. Je le relâche, les offenses. J'amène les offenses sous ton sang et sous ton esprit et sous ta grâce et au pied de ta croix. Et Seigneur, viens me transformer. Viens me transformer, Seigneur. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et toi, tu peux nous donner la puissance de déchirer la dette, de relâcher, Seigneur, de pardonner, d'être dégagé des pièges de l'ennemi, d'être dégagé de ses liens, d'être dégagé du scandalon, d'être dégagé des pièges de l'ennemi. Viens me transformer, Seigneur. Les hommes et les femmes, lève leurs bras devant Dieu et remettent toute offense devant le Seigneur. Partout à travers ce lieu. Des jeunes, de leur jeune âge qui ont été offensés. Des parents, des grands-parents. Viens me transformer, Seigneur.
Oh, viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient.
Chantez le prière avec moi.
Viens me transformer. Viens tout diriger, prends la place qui te revient.
Tous ensemble, viens me transformer.
Oh, viens me transformer, viens tout diriger.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.